France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, Renault, un héritage français. Chapitre 3, Renault, Französische Qualität. En septembre 1939, les Français rentrent de congés payés, ces congés qu'ils ont hérités du Front populaire. On les comprend, la grande majorité d'entre eux n'a aucune envie de se rendre sur un champ de bataille de retour de la plage. Tout le monde aspire à penser à autre chose qu'à la guerre, c'est évident. Car les millions de morts et de mutilés du premier conflit mondial nous ont vaccinés contre les orgies du nationalisme. Nous avons vaincu, certes, mais dans la douleur, et nous connaissons à présent le vrai prix de la paix. Malheureusement, de l'autre côté de la frontière, les Allemands, qui sont les vaincus de 1918, voient les choses un peu différemment. Humiliés par le traité de Versailles, traumatisés par la crise de 1929 et l'hyperinflation qui l'a suivi, ils ont porté Hitler au pouvoir, attirés par ses discours nationalistes qui leur ont vendu l'illusion d'une fierté nationale retrouvée. En septembre 1939 donc, Louis Renault est à l'image de la France, fatigué. Peut-être aussi qu'il revient de la plage, ça on ne sait pas, mais c'est possible, étant donné qu'il possède une île près des côtes normandes. Ancien héros de la Première Guerre mondiale et de la mobilisation matérielle, il rechigne à engager une fois encore toutes ses forces dans la bataille. Alors quand l'État se tourne de nouveau vers lui pour réarmer la France, l'enthousiasme n'est plus le même. Il aspire, lui, à fabriquer des voitures pour se promener à la campagne et on lui demande de nouveau de construire des chars d'assaut. Et puis sa maladie chronique gagne du terrain, altère ses capacités mentales. Dans cette période d'avant-guerre, Renault semble même léthargique, presque dépressif. C'est comme si la déflagration qui se profilait ne l'intéressait pas vraiment. Mentalement, il est ailleurs.
Renault, un héritage français, une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
Si Louis Renault n'est pas franchement allant pour réarmer le pays, c'est qu'il estime avoir suffisamment donné et y avoir laissé suffisamment de plumes. On se souvient qu'en 1919, ses usines avaient fabriqué des chars et des obus durant 4 années. À la fin de la guerre, l'entreprise Renault n'avait plus rien à proposer à ses clients particuliers à qui il n'allait pas vendre des véhicules auto-chenilles. Il lui avait fallu une décennie pour vraiment remonter la pente et cette expérience avait laissé des traces. Une entreprise de la taille de Renault peut en effet gagner beaucoup d'argent, mais aussi en perdre énormément en fonction de ses choix stratégiques. Qu'il vous manque un produit pendant plusieurs années et vous pouvez mettre la clé sous la porte. Or, les voitures que proposait Renault en 1919 étaient à peu près celles qu'il faisait en 1914, tandis que Citroën ou Peugeot vendaient des modèles bien plus modernes. Aussi, quand le gouvernement français lui demande de délaisser une fois de plus les automobiles pour se remettre à fabriquer du matériel militaire, Louis Renault est un peu méfiant. À vrai dire, il laisserait bien à d'autres les fabrications les plus hasardeuses pour l'avenir.
Un saut dans le temps et les tanks de l'armée moderne arrivent. Voici maintenant la cérémonie proprement dite du baptême de la nouvelle promotion qui portera le nom de promotion de la plus grande France.
En 1939, ce reportage célébrait les tanks de l'armée moderne au baptême d'une promotion de l'école militaire de Saint-Cyr. Car Renault construit malgré tout des chars dans son usine du Mans, quoique entraînant un peu les pieds. Il construit également des camions pour l'armée, même si tous n'ont pas pu être livrés à temps pour défendre le pays, car 6500 d'entre eux ne sont jamais sortis des parkings de l'entreprise, faute d'homologation. Il leur manquait un klaxon en cuivre, ce qui était obligatoire. Seulement voilà, il n'y avait plus de cuivre pour les fabriquer, autant de camions qui vont manquer à l'appel de la défense de la France. En vérité, durant les mois qui précèdent l'entrée en guerre, c'est comme si la désorganisation avait gagné la France et son administration, comme si tout le pays rechignait à se mettre en ordre de bataille. Jean-Louis Loubet, vous êtes historien et spécialiste de l'automobile. Vous avez fait votre carrière à l'université d'Évry. Pour commencer, est-ce que vous diriez que Louis Renault en a fait assez pour aider la France à se préparer à la Seconde Guerre mondiale ?
Je pense que Louis Renault est comme d'autres patrons. Il est épuisé par les années de guerre de la Première Guerre mondiale. Recommencer 20 ans après, c'est évidemment difficile. En plus, c'est le même homme. C'est-à-dire que si on regarde ses concurrents chez Peugeot ou chez Citroën, il y a eu un renouvellement de dirigeants. Là, c'est le même homme qui doit constater que l'histoire est en train de balbutier. Donc, on peut comprendre le manque d'entrain de cet industriel pour remettre l'entreprise dans les rails de la guerre.
En plus, il semblerait que au plus haut sommet de l'État, dans ces mois ou ces années d'avant 39, il y a des mouvements un petit peu contradictoires. On ne dit pas à l'industrie exactement ce qu'elle doit faire. Les contrats ne sont pas effectivement lancés. On ne paye pas les factures. C'est en tous les cas cela dont se plaint Renault à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'il avait raison ?
Il est certain que la désorganisation est immense pour tout le secteur automobile, mais pour également tous les autres secteurs industriels qui vont travailler pour l'armement. Rien n'est prêt. Et surtout, n'oublions pas que les entreprises, et notamment Renault, les entreprises sortent des années de la grande crise des années 30. Et je pense que la France n'est toujours pas sortie de la crise des années 30. Et donc, la situation est telle que il est compliqué de demander à une entreprise de se remettre à un nouveau métier alors que, eh bien, les séquelles de la crise sont encore présentes.
Le 1er juillet 1939, la France a capitulé et les Allemands sont à Paris. Aux usines Renault, du matériel sensible est jeté à la Seine pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des ennemis. Le 3 juillet, des émissaires allemands sont habillés en cour et exigent que l'entreprise se mette à travailler pour le Reich. Afin de justifier cette demande, ils disposent d'un document, le traité d'armistice signé par le maréchal Pétain, un traité par lequel le chef de l'État a engagé la France dans la voie de la collaboration.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant.
Dans ce traité d'armistice, il est bien stipulé que la France accepte d'entretenir l'armée d'occupation allemande. Pour Renault, cela pourrait signifier mettre son entreprise au service de la Wehrmacht. La manière dont Louis Renault réagit durant ses premières semaines de présence allemande en France est difficile à retracer exactement. Son idée est-elle de collaborer activement ou espère-t-il seulement sauver son entreprise ? Toujours est-il qu'il participe à des rencontres avec des émissaires allemands et qu'il se rend à Vichy durant cette période. Mais il semblerait aussi qu'il y ait des négociations pour minimiser les concessions que l'entrepreneur aura à faire au Reich. Finalement, il est convenu que Renault réservera une partie de sa production de camions aux Allemands et réparera des chars de la Wehrmacht. L'entreprise continuera de produire également du matériel civil à destination des Français, mais la priorité, de fait, sera pour l'Allemagne. Jean-Louis Loubet, qu'est-ce qu'on peut penser de l'attitude de Louis Renault dans ses premiers moments de l'invasion allemande ?
Je pense qu'il y a d'abord beaucoup d'hésitation. Bon, il est certain que la voix du maréchal Pétain porte, puisque c'est quand même quelqu'un que connaît bien Louis Renault, de par leur lien pendant la Première Guerre mondiale.
À quel point se connaissent-ils ?
Ils sont proches, disons, pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont bien connus, Renault a bien travaillé et avec talent pour les armées françaises en 1900, donc entre 1914 et 1918. Donc il y a cette confiance. Mais remarquons aussi qu'il n'est quand même pas seul, Louis Renault. Il a autour de lui des hommes, il y en a deux notamment. Il a Peyrecave, qui est un homme passé par les partis d'extrême droite, et donc assez proche de Vichy. Et puis il y a Louis II, son neveu, qui va devenir ministre sous Vichy. Donc il est entouré quand même par deux personnes qui ont tendance à lui dire oui, l'avenir, c'est l'avenir de l'entreprise. Si on veut qu'elle survive, eh bien, il faut peut-être falloir passer par ce que demande le gouvernement de Vichy.
Donc on a finalement une trajectoire entre Pétain et Renault qui est exactement la même, c'est-à-dire des patriotes de 14 qui deviennent au fond des traîtres, je ne sais pas s'il faut employer ce mot-là, enfin pour Pétain oui, de 1939-45.
Les trajectoires sont proches. Et je pense que si on veut bien comprendre ce qui se passe chez Renault, il faut regarder ce qui se passe chez leurs concurrents. Et on s'aperçoit que dans la famille Peugeot, par exemple, eh bien, on écoute le maréchal et on se pose des questions. C'est-à-dire, d'abord, les liens ne sont pas aussi étroits entre le maréchal Pétain et la famille Peugeot. Donc, on se demande vraiment qu'est-ce qui peut se passer. Et la famille Peugeot est même divisée sur l'attitude à avoir par rapport à Pétain. Et si vous prenez l'autre constructeur, Citroën, qui est, je vous le rappelle, aux mains de Michelin, là, au contraire, on n'est vraiment pas du tout satisfait de ce qui se passe et on commence à se demander comment on pourra résister. Le mot est déjà utilisé. Donc on se rend compte que dès le départ, il y a dans ce monde de l'automobile, il n'y a pas un seul choix qui est pris. Il y a, je dirais, des nuances, et ces nuances vont se creuser au fil des années pour aller vers des choix, je dirais, beaucoup plus douloureux.
Que pensez-vous, Jean-Louis Loubet, de l'idée que les concessions de Renault ont été un moindre mal, finalement, plutôt que de laisser les usines être gérées directement par les Allemands ?
Il est évident que la responsabilité sociale d'un entrepreneur pendant la guerre, c'est aussi d'assurer du travail, parce que des ouvriers qui n'auraient pas de travail auraient très bien pu être arrêtés, envoyés de force dans les usines allemandes. Donc là-dessus, le fait de donner du travail aux ouvriers, c'est évidemment faire des camions ou autres fabrications qui, avec les accords de collaboration, vont évidemment permettre aux forces du Troisième Reich d'être mieux alimentées en véhicules, en matériel. Les usines devaient tourner, mais il y a une autre question après. Comment devaient-elles tourner ? Tourner à plein régime ou tourner au contraire en tentant, en essayant de ralentir comme on peut la production. C'est une vraie question, ça. Et peut-être que la notion de collaboration ou de résistance, peut-être qu'elle se fait dans cette toute petite nuance. Donc là, il se passe véritablement un choix. Et c'est sûr que quand on regarde l'ensemble de l'industrie automobile française, on s'aperçoit que le choix n'a pas été le même entre Renault, Peugeot et Citroën.
Nous avons retrouvé dans la salle des archives un témoignage d'une ancienne employée de Renault qui va dans le sens d'un Louis Renault activement collaborateur. Le témoignage date du 30 mai 1998.
Les Allemands, quand ils sont rentrés, puisqu'ils sont rentrés exactement le 13 ou 14 juin à Paris, ils ont tout de suite été à l'usine où il y avait je ne sais combien de tonnes de cuivre et tout ça, ils ont mis la main dessus. Hein. Et quand on est revenu au mois de septembre, qu'on a recommencé à travailler, on est revenu de Saint-Étienne vers le mois d'août, fin août et tout. L'usine a commencé à retourner pour travailler pour les Allemands. Hein. À ce moment-là, tout le monde est revenu, on a réembauché les gens et on a travaillé pour les Allemands. Je peux vous dire qu'on ne travaillait pas avec grand cœur et puis qu'on en faisait le moins possible. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Tout le monde savait parfaitement que Renault travaillait pour les Allemands, monsieur.
Ce commentaire est tout à fait en phase avec ce qui se passe. Regardons les choses clairement, et si, même si c'est douloureux. Ce sont quand même des informateurs dans les usines qui vont prévenir la résistance, Londres pour parler simplement, les prévenir quand même que les usines travaillent beaucoup, ou peut-être beaucoup trop, ou un peu trop, chacun aura sa nuance. Et c'est par ces informations que Londres va décider de bombarder les usines Renault, considérées comme des usines qui travaillent trop.
Mais donc, si on écoute ce témoignage de Hélène, on se rend compte qu'il y avait ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire une sorte de je m'en foutisme, de faire un petit peu traîner les demandes des Allemands. Donc, il y avait quand même peut-être une certaine forme de résistance à l'intérieur même des usines Renault.
Eh bien, comme le dit très bien le témoignage, on ne travaille pas du tout avec entrain et légèreté dans ces conditions. Donc déjà là, la productivité est extrêmement faible. Mais il n'empêche que si on regarde les productions, je dirais, qu'est-ce qui sort chaque jour, chaque mois, chaque année des usines, eh bien on s'aperçoit que des usines Renault, il sort quand même beaucoup de choses. Alors ne nous trompons pas là-dessus. Est-ce que Renault était le premier producteur automobile pendant l'occupation ? La réponse est non. C'est-à-dire que Citroën a produit plus de camions que Renault.
Qui était également là, pour la Wehrmacht ?
Ah oui, là, il faut bien se rendre compte que le marché est pipé, dans le sens où, lorsqu'une production est faite, elle échappe complètement au marché français. Le marché français est une exception. Le vrai marché, c'est l'équipement des armées du Reich. Mais est-ce que produire des camions, c'est une chose, et c'est important, mais on ne produit pas que des camions. Parce que si on regarde les résultats financiers, eh bien, on aurait dû avoir... Puisque Citroën était le premier producteur, il aurait dû avoir les meilleures marges bénéficiaires pendant l'occupation. Et là, on s'aperçoit que l'entreprise qui fait les plus grosses marges bénéficiaires, c'est Renault. Alors une question se pose, comment se fait-il que le producteur qui produit un peu moins de camions que le leader gagne plus d'argent, et nettement plus d'argent, que le premier ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a dans les usines Renault d'autres productions, des productions dites, et c'est, j'utilise le terme des archives, des productions annexes avec des commandes qui sont évidemment des commandes qui ont trait au matériel de guerre.
Et en même temps, il faut rappeler également, Jean-Louis Loubet, que Renault n'a pas fabriqué de chars, par exemple, pour l'armée allemande, alors que c'est une entreprise qui savait et qui fabriquait des chars. De la même manière, Renault avait une filiale, Renault Caudron, qui fabriquait des avions. Cette filiale, effectivement, a fourni l'armée allemande, mais de fait, ne dépendait plus de Renault. C'était directement les personnels alliés à Vichy qui avaient pris la direction de cette entreprise. Donc les choses ne sont pas non plus aussi simples à démêler et il y a eu des pas qui n'ont pas été franchis aussi de la part de Louis Renault dans le sens de la collaboration.
Louis Renault va s'interdire de produire des chars d'assaut, mais Louis Renault va accepter de réparer les chars d'assaut qui ont été récupérés par l'armée allemande pendant la campagne de France. Et donc, les usines Renault qui, comme vous le disiez pour les avions, les usines Renault de militaires, c'est-à-dire celles des chars d'assaut, ont été nationalisées en 1936.
Donc c'est l'État français, au fond, qui produit ces chars pour l'Allemagne.
Et voilà. Mais n'oublions pas aussi que les fameux accords de Wiesbaden dont vous parliez tout à l'heure interdisent aux industriels de faire de l'armement directement pour l'Allemagne.
Est-ce que vous diriez que les employés de Renault étaient d'accord avec le fait de continuer à travailler, même si c'était travailler pour l'ennemi, ou est-ce que certains d'entre eux ont tout simplement décidé, par exemple, de partir, de quitter l'entreprise, de se cacher, pourquoi pas de prendre le maquis ?
Bien, on ne peut pas généraliser, ce n'est pas un personnel qui décide d'arrêter ou de travailler. De toute façon, dans une vie, le monde ouvrier dans sa vie, il est contraint d'avoir son salaire. Pourquoi ? Pour vivre ou pour survivre à cette époque-là. Donc il n'a pas vraiment le choix. On ne lui demande pas, en fin de compte, son opinion là-dessus. Donc il travaille. Alors bien sûr, il y a des réseaux de résistance dans les usines, dans plusieurs usines, et notamment chez Renault, où il est arrivé de voir des productions sur les lignes de montage sabotées par quelques ouvriers résistants, au péril évidemment de leur vie, puisque on sait très très bien dans un sabotage la cause du sabotage, on peut très bien voir sur la ligne de montage quelle est l'équipe d'ouvriers qui a en fin de compte pu faire ce sabotage. Donc il faut beaucoup de nuances pour ces mouvements-là.
Dans la France occupée, l'entreprise Renault n'est pas la seule à se lancer dans la collaboration économique, loin de là. En témoigne ce reportage, retrouvé sur une étagère un peu moisie de notre salle des archives, qui n'est pas toujours très bien aérée.
Mais avant d'aller vous faire un bref reportage à travers les galeries du Petit Palais, nous avons tenu à venir dans l'un des modernes bureaux installés dans les sous-sols du palais et demander au baron von Giersewald, qui est avec le docteur Elsner, l'organisateur de cette exposition, quelques détails préliminaires. Monsieur, depuis un mois, je suppose, votre exposition a dû remporter un très vif succès auprès des industriels français pour que vous ayez déjà été dans l'obligation de l'agrandir.
Mais certainement, au cours de ce premier mois d'existence, le salon technique a reçu la visite de plus de 2500 maisons françaises intéressées qui ont proposé à des industriels allemands la fabrication de plus de 8000 articles exposés. Le succès même de cette exposition nous a amené à en perfectionner l'organisation et je puis d'ores et déjà annoncer à vos auditeurs que la plus grande amélioration apportée tient dans le fait que le temps qui s'écoule entre une offre française et la commande par un industriel allemand est maintenant considérablement réduit.
Je terminerai ce bref reportage au Salon technique et industriel allemand du Petit Palais en invitant, comme je l'avais fait l'autre jour, lors du premier reportage, les industriels de province à demander au plus tôt, par l'intermédiaire des commandantures locales ou par l'intermédiaire du groupe de leur industrie, les cartes d'entrée qui sont nécessaires pour visiter ce salon qui n'est pas, je le rappelle, ouvert au grand public, mais réservé simplement aux artisans, aux directeurs d'usines, aux propriétaires d'entreprises français. Je répète pour terminer ce que je vous disais l'autre jour, tout le bien que je pense de cette initiative extrêmement intelligente qui doit permettre un juste équilibre des forces de production et de consommation dans l'Europe actuelle, qui permettra à de très nombreux chômeurs de retrouver du travail, à des entreprises françaises actuellement en sommeil, de renaître à la vie. Et je crois que c'est l'exemple, le premier sans doute, et le plus intelligent certainement, d'une collaboration qui n'est plus simplement dans les mots, mais réellement dans les faits et dans les actes.
Jean-Louis Loubet, que retenez-vous de ce document qu'on vient d'écouter ensemble ?
Eh bien, c'est un regard extrêmement précis qui montre bien qu'il y a dans le monde patronal, il y a des entrepreneurs qui ont répondu avec envie.
Avec zèle.
Avec zèle, absolument. Et je pense, il faut le reconnaître, que c'est une majorité d'entrepreneurs. Allez voir le BTP sur la côte atlantique, allez voir certaines usines de moteurs d'avions en région parisienne. On s'aperçoit qu'il y a eu quand même une collaboration zélée chez certains.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Peugeot et de Michelin. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça s'est passé finalement pour ces deux constructeurs-là ? Par exemple, Michelin, comment ont-ils été de facto dans la résistance ? Comment ont-ils agi ?
La famille Michelin est, depuis les premiers jours de la guerre, est opposée à l'occupation allemande, par principe. C'est pas un choix politique. La famille Michelin, on sait à ce moment-là, a financé quand même la cagoule, les partis d'extrême droite.
Donc c'est un choix nationaliste contre l'envahisseur allemand.
Absolument. On ne peut pas avoir pour Michelin des occupants dans le pays. Et la famille Michelin, la famille elle-même, les membres de la famille, vont rentrer dans les réseaux de résistance dans la région de Clermont-Ferrand. L'entreprise financera les réseaux de résistance et ce sera incontestablement une des rares familles d'industriels qui sera à la tête de réseaux de résistance en France.
Mais donc malgré là-dessus, tout, ils construisent à travers Citroën des camions pour la Wehrmacht. C'est là où on a du mal à comprendre exactement comment ça se passe.
Les Michelin continuent à fabriquer des pneus qui vont absolument pas pour les cabriolets. Ils vont bien évidemment pour les véhicules militaires. Ils font la production qu'on leur demande et surtout la production qui permet aux ouvriers de travailler. Mais il n'empêche qu'à côté de cela, ils sont résistants. Et ils sont là pour empêcher le développement de l'occupation. C'est-à-dire qu'il y a double jeu, et c'est le propre même de la résistance, double jeu, c'est-à-dire qu'on s'oppose à l'occupation en finançant les réseaux de résistance, en les armant et même en passant à l'action, mais il n'empêche que la figure que l'on affiche, le visage que l'on affiche, c'est celui d'un entrepreneur qui écoute poliment l'occupant.
Et pour ce qui concerne les Peugeot.
Alors les Peugeot, c'est un peu différent parce qu'au début, ils hésitent, ils ne savent pas si le maréchal a raison ou pas. Et puis, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'on n'avance pas. Et donc, ils vont décider de se ranger peu à peu et après fortement dans la résistance. Un exemple, les Allemands vont donner les plans des fusées volantes V1 à Peugeot pour les fabriquer. La famille Peugeot, découvrant ces plans, va décider d'envoyer ces plans à Londres afin d'alerter les alliés de la possibilité qui existe dans des usines françaises de fabriquer des pièces pour l'Allemagne. Et donc on voit cet acte de résistance, c'est ça.
Les usines Renault ont donc bien travaillé pour les Allemands, il n'y a aucun doute là-dessus. Réparation de chars et construction de camions, voilà ce qui leur a été fourni, tandis que les usines continuaient, je l'ai dit, de produire du matériel civil pour les Français. Mais une autre question se pose alors. Quelle était la proximité idéologique de Louis Renault avec les idées prônées par le Troisième Reich ? Autrement dit, Louis Renault a-t-il collaboré à contre-cœur ou au contraire de gaieté de cœur ? Élément de réponse avec cette archive de son biographe aujourd'hui décédé, Emmanuel Chadeau, dans une émission de 1998.
En même temps, lui, à la différence d'autres grands hommes d'affaires, comme les Vindel, etc., n'a jamais financé, soutenu les ligues d'extrême droite ou les partis.
Écoutez, j'ai retrouvé quand même pas mal de choses sur les comptes personnels de Renault pour la guerre, mais avant, et on n'a pas trace de ces choses-là. Est-ce que ça se passait par l'intermédiaire d'associations des séparés ? J'en sais rien. Enfin, en tout cas,
Société Écran.
Oui, Société Écran, je sais pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la société Renault en tant que telle n'a pas financé, contrairement à ce qu'on a lu, et à la différence de sociétés comme certaines de pneumatiques ou d'autres, n'a pas financé de ligue et n'a pas financé le PPF de Doriot. Ça, c'est certain. Et bon, d'ailleurs, Renault avait un mépris personnel assez énorme pour ces gens-là. Alors, cela, c'est plus compliqué, parce que, comme il faudra quand même le dire dans cette émission, sa femme entretenait non seulement des rapports personnels, mais également des rapports idéologiques avec des ensembles de milieux d'extrême droite. Ce qui, en plus, venait alourdir le dossier Renault, avant de le compliquer pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans la période de Vichy.
Une autre proximité idéologique de Louis Renault avec l'Allemagne, c'est, on l'a déjà dit, son admiration pour l'organisation de l'industrie allemande. Pour le chef d'entreprise, les Français ont perdu le goût de l'effort et on peut imaginer qu'il n'est pas loin de trouver des vertus à un pouvoir autoritaire capable de remettre tout le monde au travail. C'est dans ce contexte qu'il faut évoquer les deux rencontres entre le Führer et le capitaine d'industrie. Hitler considérait Renault comme un grand industriel et avait exprimé le désir, avant-guerre, de le rencontrer. La première rencontre a lieu en 1935 à la chancellerie du Reich et dure pas moins de 2 heures. Les deux autres rencontres sont plus brèves et sont organisées au salon automobile de Berlin en février 38 et février 39. Peu de choses se disent entre ces deux personnages, mais il reste des photos de poignées de main. Jean-Louis Loubet, sur cette rencontre Hitler-Renault, que peut-on en tirer ?
On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit entre les deux hommes, mais il est certain que les deux hommes se sont rencontrés, que les deux hommes partagent, je pense, une idée de l'automobile, peut-être de l'automobile populaire, ou de l'intervention de l'État, peut-être pour aider l'automobile. Il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque Louis Renault va au salon automobile que vous avez évoqué, aux deux salons, il est fasciné par la façon dont l'industrie automobile allemande est en train de trouver une solution pour sortir de la crise avec la voiture dite populaire. Renault n'y arrivant pas lui-même dans ses centres techniques, et on rapporte toujours cette célèbre phrase de Louis Renault découvrant l'Opel Kadett en disant « Faites-moi une copie ». Et cette copie, ce sera la Renault Juva 4, ce qui montre bien combien les usines Renault n'arrivent pas avant la guerre à trouver des solutions pour cette voiture économique et ont puisé en fin de compte leurs idées auprès des marques allemandes. Et je pense que l'entrain sera à peu près le même par rapport à la fameuse Coccinelle, enfin disons la Volkswagen, la voiture du peuple, pour laquelle le chancelier Hitler joue un rôle réel.
En tous les cas, la première rencontre date de 35, elle dure réellement longtemps. Il y a eu réellement une conversation entre les deux hommes. Et en 38 et 39, les rencontres sont extrêmement courtes. En revanche, elles ont donné lieu à des photos. Et ces photos sont entrées dans l'imaginaire pour figer, au fond, la proximité entre Louis Renault et Hitler.
Bien sûr, l'imaginaire, la photographie, le film, tout ça va effectivement être dévastateur pour l'image de Louis Renault, qui est sorti des grèves de 1936 comme un patron, je dirais, de choc, pour prendre un mot simple. Donc c'est sûr que l'image est assez effrayante.
Par quelque bout qu'on le prenne, on ne peut pas minimiser la participation de l'entreprise Renault à l'effort de guerre allemand. Comme on l'a vu, des éléments permettent de remettre cette collaboration dans le contexte, le traité d'armistice signé par la France, la maladie de Louis Renault, l'idée qu'il valait mieux ne pas laisser aux Allemands le contrôle effectif de l'entreprise. La collaboration semble donc un pis-aller plus qu'une volonté véritable, mais elle a pourtant eu lieu, alors que d'autres industriels l'ont purement et simplement refusée, à leurs risques et périls. Sur le plan personnel, pour Louis Renault, ces années de guerre sont néanmoins celles d'une descente aux enfers, une chute qui le conduira jusqu'à la mort, comme nous allons vous le raconter dans le prochain épisode.